الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شفاعه الإسلام نغمس الله عز وجل qui nous donne la possibilité de reprendre donc ces programmes de commenter de Riyad al-Salihin. Et Allah Azza wa Jal nous a donné la possibilité durant ce mois de Ramadan d'être plus ou moins régulier, d'assister régulièrement des programmes dans lesquels Allah nous donne tawfiq de parler de sa religion, de parler de son Coran et de parler de la sunna de son prophète Mohammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Et chacune de ces assemblées était bénie par les malaïka. Quelles que soient les assemblées où on parle d'Allah et de son prophète, il y a une bénédiction spéciale. Et comme on le répète à chaque fois, qu'on soit présent du début ou alors une partie du programme, ou alors qu'on soit présent à la totalité du programme, qu'on ait tout compris, qu'on ait un peu compris, qu'on ait rien compris, dans n'importe quel cas de figure, on ressort toujours gagnant d'une assemblée de dhikr, c'est-à-dire d'une assemblée religieuse où on parle d'Allah Azza wa Jal. On le rappelle pour garder toute notre motivation intacte, que lorsque des gens se rassemblent dans une maison, des maisons d'Allah, pour parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il y a des anges qui se réunissent et qui rapportent à Allah subhanahu wa ta'ala que dans tel endroit il y avait telle assemblée, il y avait telle personne qui ont parlé de toi, de ta religion. Et Allah azza wa jal annonce la bonne nouvelle aux personnes qui étaient présentes, que Allah ta'ala annonce la bonne nouvelle aux anges que chaque personne qui était présente dans l'assemblée, inshallah, leurs péchés ont été pardonnés par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc déjà, si on est resté pour le programme, on a écouté un petit peu, ben déjà, on a la garantie qu'à l'issue de l'assemblée, à l'issue du programme, inshallah, il y aura nos péchés, si ce n'est une partie de nos péchés qui seront pardonnés par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, on retourne un peu, la dernière fois qu'on avait fait, subhanallah, le programme avant le mois de Ramadan, ça remonte au moins 3 ou 4 mois, si je ne me trompe pas, c'était au mois de mai, donc on a pris un peu de retard. On rappelle qu'on était en train d'expliquer les hadiths concernant la patience dans le recueil, donc Riyad al-Salihin, et jusqu'à maintenant on avait fait 17 hadiths. Et le 18e hadith qu'on va faire ce soir, c'est un hadith magnifique, comme tous les hadiths bien sûr, dans lequel il y a l'histoire d'une mère et d'un père qui vont se montrer extrêmement courageux lorsqu'ils vont perdre un de leurs enfants et qu'ils vont garder confiance en Allah, qu'ils vont s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et à l'issue de cette patience, de cette leçon de patience qu'ils vont nous donner, Allah Azza wa Jal va les accorder encore plus que ce qu'ils avaient perdu. Donc c'est l'histoire très connue de Abu Talha radiallahu anhu et de son épouse qui s'appelait Ummu Sulaym. Et le hadith dit « Mata ibnun li Abi Talha min Ummi Sulaym ». Le fils d'Abu Talha était décédé, le fils qu'il avait eu avec Ummu Sulaym, a trouvé la mort une nuit. فَقَالَتْ لِأَهْلِهَا. Et Ummu Sulaym a dit aux gens de la maison, لَا تُحَدِّثُوا أَبَا طَلْحَ بِبْنِهِ حَتَّى أَكُونَ أَنَا أُحَدِّثُهُ. Elle dit que Abu Talha va rentrer. Il ne sait pas encore que son fils est décédé. Le garçon d'Abu Talha était très malade. Et Abu Talha était sorti. Et pendant son absence, le fils a rendu l'âme. Et donc la maman dit aux gens de la maison, déjà la maman elle fait preuve de sabar, de patience, elle ne craque pas, elle ne va pas exploser en larmes, et en plus elle a assez de courage pour prendre cet événement tragique sur elle et gérer la tristesse due au départ de son fils. D'accord? Et là il va se mettre d'accord avec les gens de la maison, ne dites pas un mot à Abu Talha, il va bientôt rentrer, laissez-moi lui expliquer moi-même, c'est moi qui vais lui expliquer. La suite du hadith, فَجَاءَ فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ عَشَاءَ. Abu Talha est rentré et son épouse lui a donné son repas. Il a mangé, il a bu. Le hadith est long, très long. Donc on va continuer en français. C'est juste pour la beauté de la langue arabe au début. Mais après on revient un peu à la réalité. Et donc logiquement on devait dire le hadith juste en arabe. Et tout le monde devait être capable de comprendre. Ça c'est à l'origine. Le musulman se doit, et on insiste là-dessus, un musulman se doit de connaître la langue du Coran. Ça il faut faire des efforts. Si on le connaît, alhamdoulilah, si on ne le connaît pas, il faut chercher des gens qui sont capables de nous enseigner pour comprendre ce que notre prophète nous dit dans le Coran, Allah nous dit le Coran, ce que notre prophète nous dit des hadiths. Parce qu'une traduction ne reproduira jamais les faits du hadith. On peut le traduire en français, on peut le traduire en créole, en chimaoré, la langue que vous voulez, mais la saveur, le plaisir que vous allez trouver dans la langue du Coran, vous ne le trouverez dans aucune autre langue, ni la langue de Molière, ni la langue de Shakespeare, ni la langue de je ne sais qui. Donc on va continuer. Donc, Umm Sulaym prépare le repas pour Abu Talha, et après le repas, ben, ils vont se coucher. Et Umm Sulaym prend la décision de ne rien dire à son mari. Et pendant cette nuit, ils ont eu même un rapport. Le mari a eu un rapport avec sa femme. Le lendemain, ou alors après cela, Umm Sulaym s'adresse à son mari, à Abu Talha. Ara'aita, et là, regardez, c'est une femme d'une grande intelligence, comme c'était le cas de toutes les femmes des Sahaba, radiallahu anhunna. Alors, les Occidentaux, ils pensent que chez les Arabes, la femme était confinée au foyer, c'était une femme qui ne réfléchissait pas, c'était une femme qui ne savait rien faire, si ce n'est que lever les enfants, nettoyer la maison. Mais trouvez-moi en Occident, trouvez-moi en France, à Munich, à Londres, je ne sais pas n'importe quel pays, n'importe quelle ville de pays, comme on dit, développé, une femme qui saurait gérer un tel événement avec autant de tact, de sagesse et de force spirituelle. Regardez comment elle va annoncer le décès de son fils à Abu Talha. Elle ne va pas dire en rentrant, oui, ton fils est mort, tu n'étais pas là, tu étais au travail, moi je suis tout seul à la maison, j'ai dû gérer ça. Hein, parfois il nous arrive qu'il y ait un petit souci à la maison, encore je dis à GSM, c'est bien, on peut nous prévenir, mais parfois c'est ennuyant aussi. De temps en temps, madame y appelle, il y a un petit souci et tout. C'est-à-dire, on ne s'en sort plus. Un point oui, un point non. Une ampoule a brûlé. Voilà, l'ampoule a brûlé, je fais quoi? Donc, parfois, c'est agaçant aussi. Mais donc, si c'était à notre époque, pour un problème beaucoup moins grave que ça, la femme aurait déjà appelé son mari que voilà, il y a tel problème. Rentre immédiatement, trouve quelqu'un pour te remplacer. Quand on travaille autre chose, il faut régler ça. Umm Sulaym, non seulement elle va accueillir son mari comme une femme accueille son mari, elle ne va rien montrer. Pas de signe de détresse, de faiblesse. Elle va mettre à l'aise son mari, servir le repas, et comme une nuit normale, hein, c'est un couple qui a des relations comme n'importe quel couple, et ensuite elle va dire, « Oh Abu Talha, regardez l'exemple, « Ara'aita, lo anna qawman a'aru a'ariyatahum, ahla baytin fa talabu a'ariyatahum, alahum an yamna'uhum, oh Abu Talha. » Imagine que des personnes ont emprunté des objets ou des choses qui appartiennent à leurs voisins. Traduction approximative, hein, à leurs voisins. On va essayer de faciliter. À leurs voisins. Et quelque temps après, ces voisins viennent et ils réclament l'objet qui les appartenait. Est-ce que nous sommes en droit de refuser à ces voisins leurs biens? Abu Talha dit, oh là là, il dit, ben jamais d'avis, si l'objet les appartient. C'est comme si quelqu'un est venu vous voir, il a pu emprunter, je ne sais pas moi, un objet de la maison. Et quelques temps après, il dit, ben, hein, je vous ai prêté telle chose, hein, essayez de me le rendre. Rendez-moi mon ventilateur, rendez-moi telle chose. Il dit, est-ce que je suis en droit de dire, non, je le garde. Non, bien sûr, ça ne m'appartient pas, donc il est normal que je le rende. Et regardez ce qu'elle va dire, Fahtasib ibnak. Il dit donc, ô Abu Talha, s'il en est ainsi, ben, garde confiance en Allah et espère qu'Allah Ta'ala nous rétribuera pour la perte, pour le départ de notre fils. Par Abouba, Abu Talha s'est mis en colère. Il dit que, tu m'as laissé rentrer à la maison, tu m'as laissé manger, tu m'as laissé boire. On a même eu un rapport intime et c'est maintenant que tu me dis que mon fils est mort. Je reproche à sa femme que tu aurais dû me dire tout de suite. Parce que quand Abu Talha est rentré, j'ai oublié le début, un petit morceau du hadith au début, il dit quand Abu Talha est rentré, il a demandé à sa femme la première chose, c'est un père de famille. Qu'on soit père de famille au 21e siècle ou à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, c'est la même chose. N'importe quel papa, n'importe quelle maman, des sentiments pour leurs enfants, de l'attachement. La première chose qu'il a fait en rentrant, c'est de dire, oh Umm Sulaym, comment va l'enfant? Comme moi, si je rentre à ma maison, mon fils est malade, je demande à madame, comment va l'enfant? Pour voir ce qu'il faut l'amener à l'hôpital ou ça va mieux. Elle a donné une réponse assez évasive, mais Abu Talha a cru comprendre que tout allait bien. Elle avait dit que, si je retrouve le terme, Hua askanuma yakun, il est tranquille, plus qu'il n'a jamais été. C'était des termes ambigus. Elle a dit que, oh Abu Talha, l'enfant est tranquille, plus qu'il ne l'a jamais été. Et Abu Talha a compris qu'il est tranquille, ça veut dire qu'il va bien, il n'y a plus de problème. Mais Umm Sulaym n'a pas menti. On appelle ça en arabe, enfin pas en arabe, mais dans la charia, on appelle ça tarwiya. Tarwiya, c'est quoi? C'est quand vous voulez, c'est pas mentir, mais vous faites passer un message par des termes un peu ambigus, si vous voulez éviter des conflits avec la personne. On va expliquer ça dans un instant. Donc, Abu Talha s'est mis en colère, et là, il a dit que pourquoi tu ne m'as rien dit quand je suis rentré. Et là, immédiatement, il est parti voir le prophète alayhi salatu wa salam. Il est tellement en colère qu'il est parti voir le prophète alayhi salatu wa salam. Il dit au prophète d'Allah, voilà ce qui est arrivé. Il a expliqué toute la scène. Et là, le prophète a dit que, le prophète a dit une chose, Barakallahu fi laylatikuma. Il dit qu'Allah ta'ala mette la bénédiction dans votre union, dans l'union qu'il y a eu la nuit. C'est-à-dire dans le rapport que vous avez eu, il y aura une baraka, une bénédiction dedans. Et effectivement, Umm Sulaym s'est retrouvée, elle attendait donc un enfant à l'issue donc de cette nuit. Et, une fois donc, maintenant elle attend ce bébé, et Abu Talha et Umm Sulaym sont en voyage avec le prophète alayhi salatu wassalam, et ils retournent à Madina. Et il était de l'habitude du prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il rentrait à Madina, il n'entrait pas directement, il envoyait un émissaire annoncer qu'il vient, qu'il arrive. Et pendant le voyage, Umm Sulaym, elle a ressenti les premières douleurs de l'accouchement. Et donc, ils se sont arrêtés et la caravane avec le prophète Hassan devait continuer. Et Abu Talha, il a fait ce doua, il a levé les mains vers le ciel, il a dit, Oh Allah, innaka la ta'lamu ya Rabbi annahu yu'jibuni. Oh Allah, tu sais très bien que j'aime sortir avec le prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'il sort et lorsqu'il retourne, j'aime être avec lui aussi quand il retourne. Et là, à cause de mon épouse, je suis obligé de rester à l'écart. Et tout d'un coup, Umm Sulaym a dit à son mari que ne t'inquiète pas, ça va mieux. Immédiatement, les douleurs se sont arrêtées après qu'il ait fait ce doua. Et là, ils ont pu reprendre le voyage. Ils sont restés avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Et arrivé à Madina Munawwara, immédiatement après, son épouse a donné naissance à un bébé avec beaucoup de facilité. Et lorsque l'enfant est né, Abu Talha immédiatement a pris l'enfant. Il l'a amené auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, a pris un morceau de date. Il a mâché donc cette date et il a mis un peu de cette date qui était mastiquée, qui était écrasée dans la bouche de ce bébé et il a donné le nom Abdullah à cet enfant. Il a nommé cet enfant Abdullah. Donc ce hadith est une leçon de courage, une leçon de patience. On avait déjà vu dans les hadiths avant comment le musulman doit accepter les décisions d'Allah. Alors là, ce n'est pas une petite décision, là c'est quand même quelque chose d'énorme. C'est énorme qu'une maman perd un enfant en bas âge, d'accord? Mais nous voyons par la réaction de Umm Sulaym qu'elle s'en est remis à Allah. Elle a bien réalisé que si cette épreuve l'atteint, c'est qu'Allah l'avait décidé avant même leur création. C'était donc dans le taqdir et elle a su faire preuve de patience face à cette épreuve. Et nous voyons à travers ce hadith également que le doua du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été exaucé par Allah parce que dans d'autres commentaires il dit que Allah azza wa jal a accordé 9 enfants à Abu Talha. Il en a perdu un, mais Allah ta'ala par la suite a accordé 9 enfants à Abu Talha. Tous les 9 enfants avaient, alhamdoulilah, maîtrisé la lecture du Coran. Nous voyons également de ce hadith qu'il était de l'habitude des sahaba lorsqu'il y avait une naissance. Ils amenaient l'enfant auprès du prophète alayhi salatu wassalam et le prophète mettait un morceau de date dans la bouche de l'enfant. Là-dedans, il y a deux masla. La première chose, c'est que les ulama le disent, et les scientifiques l'approuvent, que la nourriture sucrée qui va entrer dans le ventre de l'enfant, principalement si c'est des dates, ce sera quelque chose d'extrêmement bénéfique pour le nouveau-né. Donc ça, c'est une sunnat qu'on doit mettre en pratique. Alhamdulillah, les gens le mettent en pratique depuis 15 siècles et c'est une sunnat qui doit perdurer jusqu'au Qiyama. Mais la deuxième chose qui se distingue de notre époque, c'est que les sahaba le faisaient également par ce qu'on appelle at-tabarruk, pour rechercher la baraka, la bénédiction qu'il y avait dans la salive bénie du prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce qu'on appelle at-tabarruk, le fait de prendre la bénédiction d'une personne. Et ce genre d'action n'est possible qu'avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète était une source de bénédiction par ses paroles, par sa présence physique, mais tout ce qui s'en découlait du prophète alayhi salatu wassalam, il y avait une baraka, il y avait une bénédiction spéciale. Et les gens à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam attendaient que le prophète terminait son wuzu pour récupérer l'eau des ablutions parce qu'ils savaient qu'il y avait une bénédiction spéciale dans l'eau des ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, il est dit de certaines sources que il y avait une des épouses, je ne trouve pas le hadith, mais une des épouses du prophète alayhi salatu wassalam, elle avait récupéré des cheveux mubarak, des cheveux bénis qui venaient du prophète sallallahu alayhi wassalam, et elle avait conservé ses cheveux. Et lorsque quelqu'un était malade, il prenait ses cheveux, il mettait dans une bouteille d'eau, ça c'est des hadiths, et il secouait, cette femme secouait l'eau afin que la baraka, la bénédiction qu'il y avait dans les brins de cheveux qui venaient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette bénédiction s'étend donc dans ce récipient et que la personne malade buvait et que, inshallah, par le biais de la baraka du prophète sallallahu alayhi wa sallam, inshallah, cette personne pouvait retrouver la santé. Et nous voyons également à travers ce hadith, parmi les fawa'id, hein, parmi les choses importantes du hadith, jawaz ou tawriya. Nous en revenons. Le tawriya, comme on a dit, n'est pas un mensonge. Le tawriya, c'est quoi? C'est lorsqu'on est dans une situation critique où, si la personne annonce la vérité crûment, il risque d'y avoir soit un incident, soit avoir un gros problème. C'est pour ça que vous annoncez quelque chose de grave à une personne, vous craignez que la personne fasse un arrêt cardiaque. Ou alors que la personne s'emporte tellement qu'elle va vous frapper ou qu'il y aura une mauvaise réaction. Dans ce cas, il est autorisé d'annoncer la nouvelle par des mots détournés qui feront que la personne ne comprendra pas immédiatement qu'est-ce qu'on est en train de l'annoncer. Mais les ulama le disent bien que quand c'est dans une situation vraiment délicate, autrement, en aucun cas on a le droit de cacher la vérité. Et là, on souligne encore quelle est la gravité du mensonge de l'islam. Hein, même si on a besoin de se sortir d'une situation difficile, en aucun cas un musulman n'est en droit de mentir à son prochain. Il y a un proverbe aussi qui dit que pour cacher parfois un mensonge, il faut 1000 mensonges. Si on a commencé à mentir une fois pour quelque chose, lorsque la personne va vous demander d'autres questions à propos de ça, ben, pour garder une ligne de conduite, pour rester dans votre mensonge, vous allez devoir greffer 15, 20, 30 mensonges pour pouvoir cacher une contre-vérité que vous n'aurez pas dit. Donc pour un mensonge, parfois il faut 1000 mensonges. Donc d'une manière générale, le musulman dit la vérité, mais dans des cas de figure vraiment difficiles, le musulman est en droit d'essayer de contourner un petit peu la réalité pour que la personne ne soit pas choquée, pour que le message passe si ce n'est pas à la suite, mais d'une manière beaucoup plus sage. Donc ça c'était hadith extrêmement important de Umm Sulaym avec Abu Talha concernant le décès de son fils. Et ça nous ramène vers un autre hadith qu'on avait vu avant, un cas de figure similaire où le prophète والسلام, reçoit la nouvelle que sa petite fille est agonisante et là elle fait dire à sa fille une formule magnifique: « Sache, ô ma fille, que lillahi ma akhada wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma. » Sache que nous appartenons à Allah. Si Allah nous donne, sache que cela lui appartient. Et si Allah reprend quelque chose, sache que cela appartient à Allah Azzawajal également. Et tout ce qu'Allah a créé, ben Allah Ta'ala a créé avec un mudda, avec une période prédéfinie. C'est-à-dire que chaque makhlouq, chaque créature qui vient de ce monde doit vivre un laps de temps. Et quand Allah décide de reprendre son âme, ce n'est que la justice, ce n'est que la sagesse d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et nous voyons que cette épouse, cette femme sahaba, c'était une femme pieuse. Mais la piété d'un musulman ou la piété d'une musulmane ne doit pas se manifester, ça c'est important, ne doit pas se manifester que dans le culte, que dans l'ibadat. C'est pas que si je fais que mes salats, mon dhikrullah, ma lecture du Coran, c'est là que je fais preuve de piété. Oui, c'est une bonne chose. Mais la piété, c'est également dans mes réactions face aux problèmes de la vie de tous les jours, face à une épreuve, face au péché, face à des choses contraignantes, je dois être capable de réagir comme le musulman réagissait. Et là, nous avons vu, avec Umm Sulaym, mais également par la réaction du prophète, ils ont mis en pratique, mot pour mot, le verset du Coran qu'on a lu dans la Surah Al-Isha, lorsqu'Allah Ta'ala dit que « Alladhina idha asabatuhum musibatun qalu » Ces gens qui, lorsqu'il leur arrive un malheur, alors ils disent, qu'est-ce qu'ils disent ?« Inna lillahi » « Wa inna ilayhi raji'un » Certes, nous appartenons à Allah et c'est auprès de lui que nous retournons. Ce verset-là, tout le monde le connaît. Quand il arrive un malheur, on dit « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » On le dit parce qu'on sait que c'est quelque chose de masnoun. Maintenant, le musulman intelligent doit méditer sur ce verset et comprendre la profondeur de son sens dans le but de pouvoir le mettre en pratique. Parce que lorsqu'il nous arrive un malheur, il y a deux choses. Il y a de un, dire « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » sans remettre à Allah, avoir la réaction qu'on avait déjà expliquée, se dire que tout vient de la part d'Allah, quand Allah nous donne, quand un papa a eu la bonne nouvelle que son épouse a accouché d'un garçon ou d'une fille, quand il y a donc un heureux événement dans la famille, on est content et on sait que cet enfant, c'est Allah qui nous l'a donné. Mais on doit également être conscient de la même manière que si l'enfant repart ou si on perd un proche, ben c'est Allah Ta'ala qui a repris cette âme qui nous avait confiée, ce ruh, ou cet enfant qui nous avait confié, Allah Ta'ala l'a repris parce que pour cet enfant aussi, comme pour n'importe quel adulte, il y a un laps de temps qu'il doit vivre sur ce dunya. Ça, c'est la réaction du musulman. Ça, c'est l'intelligence du musulman qui met en pratique ce genre de versets, ce genre de hadith dans les moments difficiles de sa vie. Et là, on voit bien que notre religion, elle est magnifique. Notre religion, elle est belle. Elle nous apprend comment nous comporter envers Allah, comment nous comporter envers les gens, mais également comment gérer les situations délicates de la vie. Dans d'autres civilisations, dans d'autres, je ne dis pas d'autres religions, mais dans d'autres foyers, un tel événement aurait été accueilli comme un drame. Et peut-être même que la maman se serait suicidée, ou la maman ou le papa aurait eu besoin d'un soutien psychologique ou d'un suivi psychiatrique pendant longtemps pour la perte d'un enfant. Mais le musulman, il sait que ce genre d'épreuve arrive de la part d'Allah pour un but précis, et de toute façon, nous appartenons à Allah, et c'est auprès d'Allah que nous allons un jour, retourner. Et ce hadith, hein, on retrouve un autre hadith qui est à peu près pareil, qui est similaire, dans lequel Umm Salma radiallahu anha avait perdu son mari. Et le hadith est magnifique parce que quelques temps avant, Abu Salma avait dit à son épouse que voilà, je reviens d'une assemblée auprès du prophète alayhi salatu wassalam, et il nous a expliqué un hadith dans lequel il dit que lorsqu'un musulman est atteint par une calamité et qu'il met en pratique quelque chose qui s'appelle fayas tarji'u inda musibati, c'est-à-dire qu'il lit ce doua: Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khayran minha. Oh Allah, rétribue-moi dans mon malheur et oh Allah, accorde-moi quelque chose de mieux. C'est-à-dire que lorsque le musulman lit ce doua, illa fu'ila dhalika bihi, assurément Allah Ta'ala lui accordera quelque chose de mieux. Elle avait enseigné ça à son épouse. Et quelques temps après, son épouse dit fahabithu dhalika minhu. Elle dit que j'ai retenu ça de mon mari qui avait entendu du prophète alayhi salatu wa sallam. Elle dit que lorsque mon mari est décédé, ben, j'ai eu cette réaction. Immédiatement, j'ai demandé ce doua et c'est un doua que le musulman doit connaître par cœur. C'est un doua qu'on doit lire quelles que soient les épreuves. Qu'on ait un accident de voiture, qu'il y ait un décès dans notre famille, ou qu'on perd notre travail, ou qu'on ait un problème, quelle que soit la nature du problème, qu'Allah nous protège, on doit demander ce doua, ou Allah, récompensez-moi de cette épreuve et accordez-moi quelque chose de mieux. Et donc, il dit que lorsque mon mari Abu Salama est décédé, je fais ce doua. Mais quelque temps après, je me suis demandé, oui, mais mon mari était quelqu'un de tellement merveilleux, comment est-ce qu'Allah Ta'ala va me donner quelqu'un de mieux? Elle se disait que qui pourra remplacer un mari comme Abu Salama, un mari qui était aussi merveilleux. Quelque temps après, elle reçoit la visite du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam rend visite à Umm Salama et il va demander Umm Salama en mariage. Et là, Umm Salama, elle est choquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient me voir et elle me demande, il me demande en mariage. Et là, elle va dire au prophète d'Allah, j'aurais vraiment accepté cette demande, mais au prophète d'Allah, je te préviens que, eh bien, il y a trois choses. Premièrement, j'ai trois défauts. Pas trois défauts, mais il y a trois choses qui font que je n'ai pas envie d'accepter. Ya Rasulallah, je suis une femme. Walakinni mar'atun fiyya ghiratun shadida. Bon, elle expliquait un peu qu'elle a un caractère particulier. Fa akhafu an tara minni shay'a yu'azzibuni Allah. Je crains que je te mette en colère parfois et qu'Allah soit mécontent de moi. Dis deuxième chose, je suis âgée, je suis une femme qui est entrée qui a un certain âge maintenant. Je ne suis plus jeune, je suis un peu âgée. Et la troisième chose, j'ai beaucoup d'enfants au prophète d'Allah. Elle dit, c'est pour ça que je ne peux pas accepter cette demande. Et le prophète, regardez la réponse du prophète alayhi salatu wassalam, dit, oh, Umm Salama, amma ma dhakabti min al-ghira, ce que tu as dit concernant ton caractère, Inch'Allah, ces traits de caractère vont disparaître et Allah Ta'ala te donnera le meilleur des comportements. Donc ça, ce n'est pas un problème. Deuxième chose, concernant ton âge, c'est magnifique. C'est-à-dire, فَقَدْ أَصَابَنِي مِثْلُ الَّذِي أَصَابَكَ. Tu es âgé, ben moi aussi, je suis un peu âgé maintenant. Hein, tu vois que tu n'es plus très jeune, ben sache que moi non plus, je ne suis plus très jeune. وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنَ الْعِيَالِ فَإِنَّمَا عِيَالُكَ عِيَالِ. Allez trouver un Don Juan, allez trouver un Roméo qui dirait une telle chose à sa Juliette. Il dit que tu as beaucoup d'enfants, tes enfants sont mes enfants. Subhanallah, regardez l'amour qui se dégageait du cœur du prophète alayhi salatu wassalam, contrairement à ce que certains occidentaux osent dire que notre prophète aimait tellement les femmes qu'il avait contracté plusieurs mariages, que la polygamie c'est la soumission de plusieurs femmes face à un seul homme. Lorsque notre prophète demande en mariage une femme, c'est pas comme nous, c'est uniquement par pulsion, c'est par envie d'avoir des rapports ou alors par rapport à la beauté de cette femme. Notre prophète va épouser une femme qui est âgée, une femme qui elle-même avoue un certain caractère et une femme qui a déjà beaucoup d'enfants. Si quelqu'un vraiment veut prendre une petite jeune pour s'amuser, hein, par exemple un vieux, il veut prendre une petite jeune, il va prendre quoi? Hein, quelqu'un, il va prendre la chair fraîche, il va prendre 18 ans, 19 ans, 20 ans, hein, qui est encore toute gentille, hein, ça vous amuse, hein, d'accord? Et surtout, il ne va pas s'encombrer avec une petite jeune qui a déjà un escalier d'enfants. C'est-à-dire que déjà, il a sa famille occupée. S'il a envie de juste prendre elle, comme on dit dans la langue indienne, par masti, parce qu'il a envie de s'amuser un peu, si quelqu'un vraiment est pervers, je veux dire, si quelqu'un a de la perversité dans la tête, ben, il va avoir une aventure avec une petite jeune, d'accord? Mais là, ce n'est pas le cas, na'ouzou billah. Notre prophète, c'est par amour pour Umm Salama. Umm Salama se retrouve veuve. Et c'était le gros problème à l'époque des Sahaba. Avec les guerres, il y avait beaucoup de femmes qui se retrouvaient veuves. Et s'il n'y avait pas une personne qui reprenait cette femme dans leur mariage, cette femme mourrait veuve. Et elle n'avait pas de moyens pour faire vivre la famille. C'était une des hikmats qu'il y avait à travers ce genre d'action. D'accord? Contexte qu'on ne retrouve peut-être pas aujourd'hui, d'accord? Mais qu'on comprenne bien quand il y a des gens qui disent que la polygamie, on est d'accord? Mais regardez, c'était dans quel contexte? On est dans une société où, à cause des guerres, beaucoup de femmes se retrouvent veuves et elles n'ont plus les moyens de donner à manger à leurs enfants. Donc, si un homme avait les moyens, il prenait cette femme sous sa responsabilité et cette femme, alhamdoulilah, retrouvait un train de vie normal. Pardon. Et donc, il dit. Vassam, il dit que, donc, on reprend les trois thèses, Vassam, il dit que ton caractère va changer, Inch'Allah, tu es âgé, mais moi aussi, je suis déjà un peu âgé, et tes enfants, ne t'inquiète pas, ils seront comme mes enfants. Et là, Umm Salama, elle a dit, par la suite, elle dit que, Subhanallah, abdalani Allahu bi Abi Salama khayran minhu, Rasulullah, Subhanallah, Allah m'a réellement donné quelqu'un de mieux que mon mari, là, Allah m'a donné qui? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est la concrétisation que Allah Ta'ala a accepté, a exaucé le doua de Umm Salama. Donc chaque musulman doit retenir cette formule. Quand on a une situation difficile, nous devons de nous en remettre à Allah, de faire preuve de patience, d'avoir la réaction qu'il faut, et en plus de lire ce doua avec comme espoir qu'Allah Ta'ala va nous accorder quelque chose de mieux que la chose que nous avons perdue. Qu'Allah Ta'ala nous permette, mes chers frères, de comprendre ces quelques paroles, de tirer les leçons, de mettre en pratique, de propager à nos mères et à nos sœurs. Subhan rabbika, rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Et concernant, dernière parenthèse, hein, la perte d'enfants, quand une personne perd des enfants en bas âge. Évidemment, j'ai fait un petit questionnaire avec les enfants à la madrasa, là-bas au Moufia, on parlait de la mort. Et j'avais demandé aux élèves, est-ce que parmi vous, il y a des gens qui connaissent, pour essayer de faire comprendre aux enfants, qu'on ne meurt pas que quand on est vieux. Ce n'est pas quand on est bakoko qu'on meurt. On peut mourir à 15 ans, à 20 ans, à 30 ans. J'essaie de faire comprendre aux élèves qu'il se peut que l'ange de la mort reprenne l'âme d'une personne qui est âgée de 10 ans, 11 ans, 12 ans. C'est possible. Et là, j'étais surpris de voir que la moitié de la classe m'ont avoué qu'ils ont dans la famille un enfant au moins qui était mort-né. Apparemment, ça se passait à Mayotte, aux îles Comores. Donc, je me suis rendu compte que c'est un cas de figure qui arrive souvent. Et subhanallah, dans les hadiths, il dit qu'une personne qui a perdu, si je ne me trompe pas, 3 ou alors 2 enfants qui sont morts en bas âge, alors ces enfants-là attendront leurs parents, le jour de la résurrection, et ils prendront leurs parents par la main pour les faire accéder, pour les amener avec eux au paradis. Comme si c'est le haqq, c'est comme si c'est le droit de cet enfant qui est mort en bas âge de prendre par la main son papa et sa maman, de les amener avec eux dans le Jannah. Subhanallah. Et quand le musulman prend conscience de ce genre de hadith, de ce genre de promesse de la part d'Allah, bien assurément, on arrive à gérer les pires des situations de ce dunya. Moi, personnellement, j'ai un ami qui, en l'espace de 2 ans, j'ai déjà raconté cette anecdote, en l'espace de 2 ans, a perdu 2 enfants. Un qui était gagné, qui avait 8 mois à peu près, et l'autre, l'enfant qui était né à quelques jours, 3 ou 4 jours, et que l'enfant est décédé. Subhanallah, c'est un événement extrêmement tristant. Un père ou une maman qui perd 2 enfants, ben c'est une calamité, c'est difficile à accepter. Mais si la personne maintenant prend conscience de la récompense qui lui est promise le jour de Qiyamah, que même si je fais des erreurs, je fais des péchés, mais le jour de Qiyamah, mon enfant me retrouvera et m'amènera par la main vers la porte du paradis, ben ça met la joie dans le cœur de cette personne qui est affligée et son cœur est relié avec Allah par le biais de cette promesse. Qu'Allah nous accepte et nous donne la possibilité de mettre tout ce qu'on a dit en pratique. On m'a tawfiq. Jazakallah khair.